je voudrais nous amener à réfléchir quant à nous-mêmes, quant à où nous en sommes avec Dieu. Et peut-être ce matin, nous poser la question, où est-ce qu'on en est avec Dieu? C'est trop sérieux pour ne pas y réfléchir, c'est trop important. Vous savez que l'apôtre Paul disait, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et ce matin, c'est ce que je voudrais qu'on fasse, qu'on puisse réfléchir, où est-ce que j'en suis ce matin? C'est trop important. Je ne peux pas me contenter simplement d'à peu près, je ne peux pas me contenter du minimum. Mais ce matin, je voudrais vraiment que devant le Seigneur, on puisse réfléchir au travers d'une histoire de l'Ancien Testament. Alors cette histoire, on va la voir autant ce matin que cet après-midi. Ça sera la même histoire. On va voir un aspect ce matin, on verra un aspect cet après-midi. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, on va lire à partir du verset 8. On va faire une lecture un petit peu plus longue que d'habitude. Cet après-midi, on ne relira pas le texte en entier, on le coupera un peu en deux, mais ça sera la même histoire. Et je voudrais qu'on laisse le Seigneur nous interpeller. Et vraiment, vraiment ce matin, c'est vraiment un appel pressant. Et c'est vraiment fort sur mon cœur et non spirituel que j'ai entendu, ce que j'ai entendu hier. Ça doit nous amener à réfléchir. Regardez, 2 Rois chapitre 4, verset 8. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Il est dit ceci, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » C'est dire la souffrance qui était la sienne. Hein. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc, se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe, ni attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Voilà, je ne pense pas que je serai long ce matin dans ce que je vais partager, mais je voudrais vraiment que ça puisse nous interpeller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette histoire, elle est impressionnante. On ne peut pas lire une histoire comme ça en passant très vite et on passe à autre chose, vous voyez. Elle mérite qu'on y réfléchisse. Et surtout, je trouve l'attitude de cette femme impressionnante. On en parlera peut-être un petit peu plus cet après-midi de cette femme. Mais enfin, quand même, d'abord, vous avez remarqué, elle va manifester un empressement extraordinaire pour l'homme de Dieu. Vous voyez ? Et un empressement tel, vous voyez, au verset 9, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu, faisons une petite chambre haute, etc. etc. Et cet empressement est tel que ça a touché l'homme de Dieu, ça a touché Élisée, puisqu'au verset 13, il va dire à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Il est touché, vous voyez ? Il n'a pas été insensible à l'empressement qu'a manifesté cette femme à son égard, vous voyez ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, je passe sur bien des détails, le miracle se produit, il y a un enfant qui arrive alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, vous avez noté qu'il est dit que le mari était vieux. Et là, un miracle de Dieu s'est produit. Et là, dans cette situation, l'enfant va grandir. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va avoir. Je ne sais pas, une insolation, un cancer, une tumeur, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il va mourir. Et là encore, cette femme va manifester une foi remarquable. Une attitude de foi remarquable. Je l'ai souligné quand elle arrive devant Élisée, verset 26. Vous imaginez un petit peu, vous arrivez là... Ton mari, ton enfant se porte-t-il bien ? Et elle répondit, bien. Une foi remarquable. Mais ce n'est pas tellement d'elle dont j'aimerais parler ce matin. J'aimerais parler plutôt du mari. Cet après-midi, on parlera un petit peu plus de madame. Ce matin, je voudrais qu'on parle du mari. Parce que quand on s'y arrête, lui, par contre, ce n'est pas la même chose. On se rend compte en lisant l'histoire... Quand on réfléchit un petit peu, que ce n'est pas la même chose. Ça n'a même rien à voir. Comme quoi, et c'est déjà bon à rappeler, c'est une première leçon spirituelle, c'est que la vie spirituelle, c'est personnel. C'est personnel. Merci Seigneur quand on est tous ensemble à l'église, mais on se doit, je me dois d'avoir une vie spirituelle personnelle. Merci Seigneur quand dans un couple, les deux sont convertis, parce que quand il n'y en a qu'un de converti, ce n'est pas facile. Mais quand il y en a deux, merci Seigneur. Mais n'empêche... Il n'en demeure pas moins vrai que même si les deux sont convertis, les deux doivent avoir une vie spirituelle personnelle. On sent bien que là, entre les deux, il y a quand même un gros décalage. Hein. On sent que c'est pas la même chose. Déjà, au départ, vous avez remarqué, quand je l'ai souligné, cette femme, elle va manifester un empressement pour l'homme de Dieu extraordinaire qui va toucher Élisée, mais on sent que c'est elle qui a l'initiative, c'est pas lui. D'ailleurs, elle va dire à son mari, je sais, cet homme qui passe chez nous, c'est un homme de Dieu, faisons une petite chambre. Alors, je ne doute pas qu'il l'a aidé. Hein, bon, voilà, je suppose qu'il était un peu plus bricoleur que moi, mais enfin, bon, il l'a aidé, quoi, vous voyez. Mais vous avez remarqué, quand verset 13, Élisée va dire à Géasi, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Vous remarquerez qu'il ne dit pas, voici, vous nous avez montré tout cet empressement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Non, il parle à cette femme, tu nous as montré, que peut-on faire pour toi ? Parce qu'il a bien senti, Élisée, qu'entre les deux, ce n'était pas la même chose. Il a senti que ce n'était pas la même attitude, vous voyez ? Et c'était quand même largement différent. Et puis... Autre chose qui m'interpelle, là aussi je passe sur bien des détails. Bon, le miracle se produit, un enfant arrive, et puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a. Bon, il y a ce problème, mais un enfant arrive et le miracle est là. Et je remarque une chose, moi, qui m'attriste, c'est que quelque part, ça n'a pas changé grand-chose chez lui. Vous avez remarqué ? Dans sa foi, dans sa façon d'agir, de réagir. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il est toujours aussi amorphe. Si je résume un petit peu cet homme, je dirais que dans toute cette histoire, il est aux abonnés absents. Il est là, mais il n'est pas là. Aux abonnés absents. Enfin, je sais pas moi. Il vit ce miracle, il pouvait pas avoir d'enfant, ils ont un enfant, Dieu intervient, Dieu pose sa main. En plus, la Bible dit qu'il était vieux, donc je veux dire, il est parfaitement conscient qu'il y a un miracle qui s'est produit là. Mais ça aurait dû booster sa foi, ça aurait dû l'amener à se réveiller, ça l'aurait dû amener à quelque part à réagir et puis quelque part peut-être à modifier certaines attitudes, certains comportements. Mais on se rend compte que ça n'a rien changé. Et ce qui m'interpelle surtout, c'est, peut-être j'y reviendrai un petit peu plus cet après-midi, c'est verset 23, quand il y a le problème qui surgit, ma tête, bon alors, vous avez remarqué, il expédie le fiston à la mer, tiens, débrouille-toi avec. Et puis, la mère arrive, elle appelle son mari, verset 22, je veux aller vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, verset 23, alors moi je suis estomaqué. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Alors je vais traduire ça avec des mots d'aujourd'hui. C'est comme s'il était en train de lui dire, pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? C'est pas dimanche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux aller faire à l'église aujourd'hui? C'est pas dimanche. Vous voyez, je retranscris ça aujourd'hui. C'est un peu ce qu'il lui dit. Vous vous dites, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Sa conception des choses de Dieu, sa manière de fonctionner, montre qu'il est à côté de la plaque. Et vous savez, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des façons d'être, des façons de parler qui sont révélateurs de notre état spirituel. Il n'y a pas besoin de faire un grand discours, des fois il suffit. Il y a des attitudes, des comportements, des façons de faire, des façons de fonctionner qui montrent où nous en sommes avec le Seigneur. Et puis, vous avez remarqué, je ne sais pas moi, verset 22, elle appelle son mari et dit « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs, une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Enfin, je ne sais pas, vous ne seriez pas dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il avait déjà expédié le fiston, il ne demande même pas, mais au fait, il ne va pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, il ne réagit pas, il n'y a rien, il n'y a aucune réaction, il n'y a rien. Aux abonnés absents, il est là mais il n'est pas là. Aux abonnés absents et quelque part il dit même pas, il demande même pas des nouvelles de son fils, il dit même pas mais si un problème je viens avec toi, on va être tous les deux, on va rien, il y a rien du tout. Et à partir de là, à partir de ce verset 23, vous regardez, il disparaît de la circulation, on n'entend plus parler de lui. Sa femme va vivre un miracle, elle va expérimenter quelque chose de grandiose. Elle va voir la main de Dieu. Elle avait déjà expérimenté au travers de la naissance de son fils. Maintenant, elle expérimente au travers de la résurrection de son fils. Enfin, elle vit quelque chose d'extraordinaire. Mais lui, il est dans le même contexte qu'elle et il vit rien. Rien. Alors, où je veux en venir ce matin? Où je veux en arriver? Tout simplement à cette réalité. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas être comme cet homme dans ma marche avec Dieu. Je ne veux pas être comme cet homme. Je ne veux pas être un croyant, un chrétien, un enfant de Dieu aux abonnés absents. C'est-à-dire que je suis là dans l'église, je viens. Voilà. J'ai des frères et des sœurs, ouais, bon, voilà. Un jour, j'ai donné mon cœur au Seigneur, peut-être même je suis passé par les eaux du baptême, ouais, c'est très bien, mais je suis aux abonnés absents, quoi. Il n'y a aucune ferveur, il n'y a aucun enthousiasme, il n'y a aucun zèle, il n'y a aucun entrain, il n'y a aucun empressement. Je suis là, mais je n'y suis pas, quoi. Je ne voudrais pas être ce genre de croyant. Je ne veux pas être ce genre de croyant-là. Vous voyez, Dieu parle, mais bon. J'entends des dons spirituels, mais bon. J'entends peut-être des témoignages ici ou là de ce qui se passe, de ce que Dieu fait. De prières exaucées, etc., etc. J'entends des choses, ah ouais, d'accord, ouais. Mais ça n'amène aucune réaction, ça ne suscite pas à moi un désir de d'aller plus loin avec Dieu. Ça ne suscite rien. Je suis là, mais je n'y suis pas. Aux abonnés absents. Comme cet homme. Comme cet homme. Vous savez, on peut être... lui, quand même, quand on réfléchit, il est dans un bain, là. Il baigne dans un bouillon qui est quand même pas mal. Élisée est là, l'homme de Dieu. C'est quand même pas rien. Quand vous regardez qui était Élisée, il le côtoie. Voyez, il a à ses côtés une femme remarquable, une femme de foi, une femme pleine d'enthousiasme pour Dieu, pleine d'empressement, on l'a lu. Il côtoie le miracle, il y a la naissance de son fils. Il est dans un bouillon qui est bénissant, qui est bon. Et lui, il est aux abonnés absents. Comme quoi, on peut être dans le bouillon de l'église et être complètement à côté de la plaque. On peut venir même à toutes les réunions. C'est pour ça que je disais il n'y a pas longtemps que le fait d'être là à toutes les réunions, ce n'était pas un gage de spiritualité. Hein. Je ne suis pas, alors comprenez-moi dans le sens dans lequel je le dis, hein. Mais enfin, on dit, ah mais il est là à toutes les réunions. Oui, mais s'il est aux abonnés absents, le fait qu'il soit là à toutes les réunions, ce n'est pas la garantie qu'on le retrouvera dans la grande réunion au ciel. Hein. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en soit pleinement conscient. Voyez. Je ne veux pas ressembler à cet homme-là. Je ne veux pas être un croyant de ce style-là. Voyez, rendez-vous compte, il côtoie, enfin, il est à côté de deux miracles. Le premier, il le vit parce qu'il y a participé. Et le deuxième, il n'en est même pas conscient. Il n'en est même pas conscient. Rendez compte. Et là où ça m'interpelle, c'est quand on va un petit peu plus loin, on retrouve trace de cette femme. Regardez avec moi 2 Rois chapitre 8, verset 1er. Le temps a passé, certainement quelques années ont passé. 2 Rois chapitre 8, verset 1er. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva, et elle fit selon la parole de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Elle va encore vivre quelque chose de grand, cette femme. Il va encore vivre quelque chose de grand. Là, j'ouvre juste une parenthèse. Elle va encore manifester une foi remarquable. Mais je crois qu'elle manifeste cette foi remarquable parce que déjà, à la base, dans ce qu'on a lu avant, Dieu l'avait préparée. Vous savez, il y a des fois des choses, on ne sait pas pourquoi on passe par là. Et en fait, si on n'en est pas conscient, Dieu est en train de préparer la suite. Dieu est en train de préparer la suite. Voyez, peut-être, je n'avais pas du tout prévu de dire ça, mais peut-être ce matin tu te dis, Seigneur, je sais pas, je ne comprends pas. Ben, dis-toi que peut-être, au travers de ce que tu passes, Dieu est en train de préparer la suite, la prochaine étape. Et c'est ce qui se passe là. Élisée lui dit, écoute, la famine arrive, tu t'en vas, tu plies le bagage, tu hop, et tu t'en vas. D'accord. Et on fait quoi? On va vivre comment? Comment on va survivre, etc., etc. Ben, ça me va. La femme se leva, elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, elle séjourna, elle et sa maison, 7 ans au pays des Philistins. Verset 3. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Vous croyez au hasard, vous? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hein. Elle est tombée pile au bon moment. Vous savez, quand on fait confiance à Dieu, quand on fait confiance au Seigneur, il nous dirige toujours pile comme il faut. Au bon moment. Elle est arrivée au bon moment. Elle soit arrivée la veille ou le lendemain, ça n'aurait pas marché. Mais là, elle est arrivée au bon moment. Pourquoi? Parce qu'elle faisait confiance à Dieu. Verset 6, le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Elle n'en demandait pas tant. Hein. Vous voyez, quand on fait confiance à Dieu, il est celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Non seulement il nous donne ce qu'il faut, mais il rajoute en plus par-dessus. Raison de plus de lui faire confiance. Hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est pour ça que j'ai fait lire cette histoire, il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle? Encore une fois, il est où, lui? Il est où? Alors, bon, peut-être, c'est une supposition, peut-être comme il était vieux, peut-être vous allez me dire, il est décédé. Peut-être. Mais on n'en sait rien, la Bible ne le dit pas. On ne sait rien. Hein. Mais je me dis quand même, c'est étonnant, quoi. Il ne vit jamais rien, ce pauvre homme. Il est totalement absent, quoi, voyez. On a l'impression que c'est symptomatique chez lui. Peut-être ce matin, et là je redeviens un peu plus sérieux, quoique c'est sérieux depuis le début, hein, mais peut-être ce matin dans cette assemblée, il y a un enfant de Dieu ou il y a des enfants de Dieu comme cet homme. Et quand je dis un, c'est un ou une. Hein. un croyant peut-être, ou une croyante, ou plusieurs, qui ressemble sous certains aspects à cet homme de l'Ancien Testament. Peut-être, mon frère, ma sœur, mon ami, tu es là, tu viens, mais tu es aux abonnés absents. Ton corps est là, mais ton cœur n'y est pas. Ton corps est là, mais ton âme n'y est pas. On est dans le bouillon de l'Église, mais quelque part, on ne vit pas grand-chose. Et peut-être ce matin, le Seigneur voudrait t'interpeller. Peut-être tu es là, mais il n'y a pas de... Il y a eu un don spirituel tout à l'heure, le feu du premier amour qui a baissé, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, voyez. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas... Voilà, on vient parce qu'on sait qu'il faut venir, parce que quelque part, d'une manière... j'allais dire... parce que quelque part, bon, on sait qu'il faut qu'on soit là, alors on vient, c'est le dimanche, c'est dimanche matin, c'est le culte, alors on vient. Mais sorti de ça, il n'y a rien, quoi. Mon désir en disant ça ce matin, c'est pas de... Le but, c'est pas de stigmatiser, c'est pas d'enfoncer, c'est pas de culpabiliser, c'est pas de mettre mal à l'aise, c'est pas de blesser, c'est pas d'arabaisser ni d'humilier, certainement pas. Certainement pas, je ne me permettrai pas, la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais c'est peut-être de susciter une saine réaction. Et c'est ça mon but ce matin. C'est ça mon but. Quand j'entends ce que j'ai entendu hier, et les quelques-uns qui étaient là, vous avez entendu comme moi, je me dis, mais Seigneur, on en est où? J'en suis où? Ma marche avec toi. C'est si vite fait quelque part de vivre une vie spirituelle, religieuse. Religieuse. Et peut-être ce matin, le but de ce moment, c'est d'amener à une réaction pour dire, Seigneur, c'est vrai. Sous certains aspects, je ressemble à cet homme. Je suis là, mais j'y suis pas. Mon corps, il est là, mais mon cœur, il n'y est pas vraiment. Je suis un peu aux abonnés absents. Je suis un peu comme lui, quoi. Je suis dans le bouillon, là. Je suis au milieu, oui, voilà. J'entends parler du Seigneur, de miracles, de trucs, d'expériences, de ceci, de cela. J'entends des dons spirituels. Mais moi, je vis rien. Ou plus rien. Mon souhait ce matin, c'est que, si tel est le cas, eh bien, mon frère, ma sœur, si c'est ton cas ce matin, tu puisses dire, Seigneur, viens me visiter. Je ne veux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester sec. Je ne peux pas rester dans cette aridité. Je ne peux pas rester dans ce bouillon où mon corps, il est là, mais mon cœur, il n'y est pas. Je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, comme ces ossements desséchés dont il est question dans Ézéchiel 37, je veux retrouver la vie. Ce que j'ai vécu peut-être il y a quelques années, mais je veux le retrouver parce que si je reste comme ça, il faut que ce soit clair. Si je reste comme ça, si Jésus revient, mais je reste là. Et mon but, ce n'est pas de faire peur et de... Mais quand même, de réaliser, c'est sérieux. C'est sérieux. On ne peut pas rester un croyant aux abonnés absents. On est là. Oh, oui. Notez bien, dans cette histoire-là, j'y reviens, ça faisait quand même un bout de temps. Bon, parce que ce matin, je ne parle pas d'un coup de mou spirituel. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mais vous avez remarqué que, 2 Rois chapitre 4, verset 18, il est dit « l'enfant grandit ». Donc, ça signifie que les années sont passées quand même. Vous voyez ? Il y a des mois et des années qui se sont écoulées. Mais on se rend compte que, avant le miracle ou après le miracle, il n'a pas changé. Hein ? Il n'a pas changé. Et peut-être, ce matin, peut-être quelqu'un... pour être comme lui. Ça fait peut-être des mois et des années que tu ne vis plus rien avec Dieu. C'est sec, tu es aux abonnés absents. Ça fait un moment que quelque part, dans ton cœur, ça ne bouillonne plus pour le Seigneur. Il n'y a plus de ferveur. Et peut-être de poser la question, mais pas pour humilier, pas pour abaisser, mais pour faire réfléchir. Depuis combien de temps n'as-tu plus vécu quelque chose de personnel avec Dieu ? Depuis combien de temps n'as-tu plus fait une expérience avec Dieu ? Quelle que soit l'expérience, hein, quel que soit le domaine, aussi petit soit-il, hein, qu'importe, grande, petite expérience, c'est une expérience, ça fait du bien, ça booste. Depuis combien de temps ? Peut-être ça fait longtemps que tu n'as rien ressenti, que peut-être tu n'as pas pleuré, que tu n'as pas versé une larme devant Dieu, qu'un chant ne t'a plus touché. Tu entends des chants, on entend des chants, on peut s'habituer, on entend, et ça ne nous touche plus. On entend la parole, ça ne nous touche plus. On entend des dons spirituels, ça ne nous touche plus. Aux abonnés absents. Peut-être ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais ce matin, le Seigneur voudrait pas t'accabler, pas t'accuser, mais peut-être t'amener à dire, Seigneur, je veux plus ça. Je veux sortir de cet état-là. Je veux sortir de mon aridité. Je veux sortir de ma sécheresse. Je veux plus être là. Je veux plus entendre parler. Je veux vivre. Je veux vivre quelque chose avec Dieu. Je veux vivre quelque chose avec toi. Que tu touches mon cœur, quitte à ce que, peut-être à ce que je pleure devant toi. Quitte peut-être à ce que je tombe à genoux devant Dieu. Hier, ça s'est passé devant nous. Moi, ça m'a touché. Ça m'a remué. On était, bon, je ne sais pas combien on était, mais on a entendu le pasteur cubain, on a entendu le pasteur indien. D'ailleurs, soit dit en passant, ce pasteur cubain, parce que je l'avais déjà entendu une fois ailleurs, il n'a pas montré les coups qu'il avait sur lui, parce qu'il en a quelques-uns. Mais on les a entendus, et puis après, il y a eu un moment de prière. Et à côté de nous, là, il y avait un couple, je ne sais pas moi, un papy et une mamie. Alors, excusez-moi, je ne sais pas, à la vue de nez, ils avaient 80 ans, à peu près. Là. C'est pour ça que je dis un papy et une mamie. Mais ils étaient à fond. Ils étaient à fond. Du début à la fin. Du premier chant et puis jusqu'à la fin, tout ce qu'on entend. Ils étaient à fond. Et pendant le moment de prière, ça m'a touché de voir juste à côté de moi cet homme-là, tellement touché, tomber à genoux. C'est pas tracassé de savoir qui j'avais à côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Il était devant Dieu, les bras levés, à genoux. Peut-être ce matin, le Seigneur voudrait dire que tu vives quelque chose ou que tu revives quelque chose. Voyez. Peut-être, je ne sais pas, je ne dis pas ça souvent, mais peut-être que c'est une ultime occasion que Dieu donne à quelqu'un ce matin. Peut-être. Encore une. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Vous savez, Dieu est patient. Hein. Dieu est très patient. Mais on ne peut pas s'amuser à jouer avec la patience de Dieu. Il use de patience, mais il ne faut pas en abuser. Et ce n'est pas des menaces, hein. Mais c'est pour nous faire réfléchir, parce que moi je crois quand même que, et c'est Jésus qui l'a dit, on en parle à ça cet après-midi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si on a soif, si on est de ceux et celles qui ont soif, mais Jésus est celui qui remplit, il est celui qui visite, il est celui qui renouvelle, il est celui qui souffle peut-être sur les braises qui sont en train de s'éteindre, sur ce feu du premier amour qui est peut-être éteint, quasi éteint. Il est celui qui vient souffler. Et ce matin, le Seigneur veut souffler sur toi. Et j'aimerais vraiment nous dire, ne soyons pas, ne soyons jamais, ne soyons plus. Et je me le dis à moi aussi. Un chrétien aux abonnés absents. Je suis là, mais je n'y suis pas. Vous savez, quand Jésus va dire des religieux, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est ça, ils sont là, mais bon, il y a beaucoup de tralala, mais... Seigneur, je ne veux pas être ça. Seigneur, je veux que mon cœur y soit pour toi. Parce que toi, tu as été jusqu'au bout pour moi. Je ne veux pas ressembler à cet homme. Je ne veux pas être comme lui. Et si Dieu a voulu que l'histoire de cet homme paraisse, c'est pour que ça nous interpelle. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce monsieur. Je ne sais pas quel nom, quel prénom il a. Mais tant mieux si on ne le sait pas. Comme ça, on peut s'identifier à lui. Et peut-être à la place de cet homme, on peut dire, ben, c'est un peu moi, quoi. C'est un peu moi. Sa femme était à fond, mais lui, il n'y était pas. On peut être dans une famille convertie, où les gens, ils sont à fond pour Dieu, et puis nous, on est là au milieu, et puis nous, on ne vit rien du tout. Peut-être pour toi, ce matin. Peut-être pour quelqu'un. Et Dieu veut te visiter, peut-être même un ami, peut-être tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Ce matin, le Seigneur voudrait te toucher pour que quelque part, tu te contentes pas simplement d'être là, de venir, de dire c'est bien, oh, ça me fait du bien, ouais, tant mieux, ça te fait du bien. Mais le Seigneur ne veut pas que ça te fasse du bien, il veut te sauver. Il veut te pardonner, il veut faire de toi son enfant. Il veut que tu rentres dans le plan qu'il a pour ta vie. Alléluia. Alors je termine par un dernier texte que les chrétiens connaissent. C'est des paroles de l'apôtre Paul. Hein. On a entendu ça, et ça s'adresse à des croyants. Romains 13, versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que nous savons en quel temps nous sommes? Jésus revient. Oh oui, vous allez me dire, oui, mais depuis le temps qu'on le dit, mais moi je le crois. Vous savez en quel temps nous sommes. Et j'allais dire, d'autant plus si nous savons. Quand on ne sait pas, c'est une chose. Mais quand on le sait, ce n'est pas faute de le dire. Vous voyez, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la pleine réalisation de ce salut. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voyez, c'est l'heure de vous réveiller. C'est à des chrétiens que c'est adressé. C'est pas à des gens qui connaissent pas le Seigneur. Si tu connais pas le Seigneur veut te toucher ce matin, veut te sauver. Mais peut-être si nous connaissons le Seigneur, mais qu'on ressemble à cet homme, alors le Seigneur te dit, c'est l'heure de te réveiller. Tu ne peux plus rester aux abonnés absents d'être là, de se cacher derrière les autres, de se cacher derrière tout un tas de choses, mais derrière de dire, Seigneur, je ne veux plus être comme ça. Je veux sortir de ma torpeur. Visite-moi, Seigneur. Je veux vivre quelque chose avec toi, quelque chose de profond. Je veux vivre quelque chose qui me marque comme tout à nouveau. Alléluia. C'est tellement important. Vous savez, il y a tellement de textes, j'aurais pu parler, j'ai parlé de cet homme-là, de l'Ancien Testament, mais vous savez, on aurait pu prendre l'église de Sardes, tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes, ouais, on dirait, de vue, ouais, il est là. Il est à l'église ce matin, oui, il est à l'église ce matin, oui, il est là, mais il est mort. Seigneur, vous voyez, l'apôtre Paul parlera de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renieront ce qui fait la force, l'apparence, vous voyez, de la piété. Ça passera pas le jour du Seigneur. Ça passera pas, ça. Et je me le dis à moi. Seigneur, aide-nous à être comme cette femme. À être cette femme, comme cette femme. Elle était bouillante, elle était fervente. Une foi, waouh. Elle côtoyait Élisée, qui veut dire Dieu de mon salut. Mais on est comme cette femme. On côtoie le Dieu de notre salut. Enfin, j'espère qu'on le côtoie. Mais ce matin, où est-ce que nous en sommes? Et je voudrais vraiment que ce ne soit pas qu'un message, mais c'est peut-être encore un appel du Seigneur. Peut-être pour quelqu'un, peut-être que tu as besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je me suis contenté du strict minimum. Je me suis contenté d'à peu près. Je me suis contenté simplement là, de venir. Mais je suis là, mais je n'y suis pas. Peut-être ce matin, Seigneur, je réalisais que j'ai besoin d'un temps de renouveau, d'un temps de rafraîchissement. Et ce matin, comme ça a été dit, le Seigneur ne nous juge pas. Il n'est pas là pour nous enfoncer dans ce qu'a dit Gaëtan au départ, c'est ça. Le Seigneur n'est pas là pour nous mettre par terre. Il est là pour nous relever. C'est pour ça que je vous demande aux musiciens de s'approcher. On continuera cet après-midi, on parlera plus de cette femme et de ses attitudes.